coq chanter et jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Bonjour. Merci.
Aujourd'hui, nous allons parler de coopération agricole internationale sous l'angle des contributions des coopératives en faveur du développement durable. Nous allons donc à la 4e édition du Salon pour Durable qui s'est tenu au Palais des Congrès de Paris les 4 et 5 avril dernier. Nous sommes attendus sur le stand de Coop de France par les responsables et techniciens de coopératives agroalimentaires françaises qui entretiennent des partenariats en Afrique. Avant tout, il nous faut connaître les différents organismes, autrement dit connaître avec qui nous allons causer. D'abord, Pro Durable. Depuis 10 ans, Pro Durable s'impose comme l'événement professionnel incontournable en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises, ce que les spécialistes appellent la RSE. Ce salon Pro Durable est l'événement professionnel de référence des acteurs et des solutions de l'économie durable. Derrière ces termes techniques, il y a une préoccupation. Comment produire et même comment augmenter la production sans dénaturer le cadre de vie et sans perturber les cycles de vie des populations? Organisé sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Pro Durable est soutenu par les principaux réseaux professionnels et les médias spécialisés. Présent notre organisme hôte, c'est-à-dire Coop de France. C'est l'organisation professionnelle des entreprises coopératives agricoles, agroalimentaires et agro-industrielles. La coopération agricole en France, c'est 2500 entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires, principalement des TPE et des PME, qui représentent une marque alimentaire sur 3, rassemblent 3 agriculteurs sur 4 et emploient 165 000 salariés. À présent que nous connaissons nos interlocuteurs, intéressons-nous à ce qui nous a conduits en ces lieux. L'agriculture, l'alimentation, le changement climatique font partie des grands défis auxquels l'Afrique doit répondre. Si les efforts de production locale ne permettent pas de satisfaire la demande portée par une forte croissance démographique, de nombreux programmes ont été engagés afin de produire mieux et plus localement en créant de nouveaux emplois. Dans cet objectif, les coopératives agricoles et agroalimentaires françaises mobilisent leurs expertises pour le renforcement de l'écosystème agricole africain et la structuration des filières. Tout simplement parce qu'au niveau mondial, la production, la transformation agroalimentaire, la logistique en général et la consommation ne peuvent se faire aujourd'hui dans le cadre d'un seul pays. Les explications de Rachel Blumel, qui est directrice de Coop de France Agroalimentaire.
Coop de France est une organisation professionnelle qui rassemble les 2500 coopératives françaises, coopératives agricoles françaises, et qui représente 7 filières. Vous avez le vin, les produits laitiers, les céréales, le sucre, les viandes, les produits bio et les fruits et légumes frais et transformés. Donc nous représentons toutes ces filières agricoles et nous existons depuis à peu près une trentaine d'années maintenant.
Il se trouve que dans la production agricole, dans la formation, dans la commercialisation et dans la transformation et valorisation, on ne peut pas se permettre d'être national. On est obligé de sortir des frontières nationales de chacun. Et c'est pour ça que Coop de France a une activité à l'international.
Absolument, parce qu'on a beaucoup de coopératives qui soit exportent des produits, soit s'implantent dans des pays étrangers pour justement accompagner des agriculteurs dans des pays étrangers dans leur transition agricole. Pour nous, c'est ça l'essentiel, c'est d'échanger sur les compétences, le savoir-faire et les contraintes climatiques, les contraintes géographiques des pays dans lesquels on souhaite aussi s'implanter.
C'est pour ça que vous avez organisé cette table ronde sur l'Afrique.
tout à fait, parce que le Salon Pro Durable sur la responsabilité sociétale des entreprises répond absolument à notre objectif dans notre présence justement en Afrique et notre volonté d'être beaucoup plus en synergie avec des demandeurs. Ce sont des agriculteurs africains qui sont venus demander l'appui du savoir-faire coopératif français.
Je vais essayer de résumer pour voir si j'ai compris. Oui. Ce Salon Pro Durable, ça veut dire on peut produire, on doit produire, mais il y a un environnement à préserver, il y a la nature. Ce sont des hommes qui y vivent. On ne peut pas, sous prétexte de faire des affaires, aller faire n'importe quoi.
Absolument. Et ce qui est très important aussi, hein, nous représentons 2500 coopératives, dont 74% des sièges sociaux sont en zone rurale française. Eh bien, on peut faire la transposition avec l'Afrique qui a besoin de maintenir aussi ces personnes dans les zones rurales. Nous avons subi, nous aussi, une désertification. Et ça, ça appauvrit des pays. Et nous, on a eu des gens qui sont allés dans les villes et qui n'ont pas obtenu ce qu'elles attendaient du milieu citadin. Donc, les coopératives, elles ont un rôle extrêmement important dans les territoires. Donc, comme vous le disiez, c'est produire le bon produit pour créer de la valeur et permettre au tissu local de vivre correctement de son travail.
Et ne pas dégrader l'environnement, évidemment.
Bien sûr, ça va de soi. Quand on est en prise directe avec la nature, on a envie de la préserver. Et je pense que les agriculteurs sont les premiers concernés.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Au revoir.
Parmi les coopératives les plus actives sur le continent africain, il y a Agriculteurs Français et Développement International, un regroupement plus connu sous le sigle AFDI. Le réseau AFDI est composé de 16 AFDI territoriales et de 7 bureaux internationaux. Grâce à un réseau constitué de 450 organisations paysannes françaises partenaires, 60 organisations paysannes partenaires dans les pays du Sud, AFDI soutient les agricultures familiales, accompagne des organisations paysannes des pays en développement et sensibilise le monde agricole français au développement international. Le témoignage de Stéphane Lefaou, responsable du pôle information de Agriculteurs Français et Développement International.
Il y a 40 ans, il y avait des agriculteurs français qui avaient décidé de mettre en place des échanges paysans. Et ils sont vite aperçus que la voie de développement la plus forte, je dirais, c'était de soutenir le mouvement collectif agricole en Afrique subsaharienne.
Alors le mouvement collectif, traditionnellement, il y a un mode d'organisation en Afrique dans les villages, même si on n'appelle pas ça coopérative, CUMA ou tout ce que vous voulez.
Mais complètement, on appelle ça NAM, Tontine, que sais-je. Mais en tout cas, ces mouvements qui pour nous sont vraiment à la base du renforcement de la voix des paysans, parce que c'est ça qui est important à travers le mouvement collectif, c'est qu'ils soient mieux représentés pour que les adhérents à la base gagnent en autonomie, qu'elles soient économiques, de décision.
Mais vous devez vous adapter aux différents pays que vous visitez, parce que les réalités ne sont pas les mêmes.
On s'adapte naturellement parce que la demande, elle vient des gens sur le terrain. Souvent, on a des demandes qui sont très techniques, en fait, des anacardiers qui vont demander si ils ont des collègues qui peuvent les aider sur les fruits à coque, des céréaliers qui vont demander si ils ont des collègues qui peuvent les aider sur la commercialisation. L'idée, c'est simplement que les Français amènent un témoignage et après, les gens en font ce qu'ils veulent avec les données et de leur pays.
C'est pour ça que vous avez parlé de modèle coopératif à construire. C'est-à-dire avec les expériences des uns et des autres de tout le monde.
Oui, tout à fait. Le modèle collectif, en tout cas, est à construire. Après, moi, je suis persuadé qu'il doit quand même s'inspirer de bases fortes. Et les modèles collectifs dans certaines régions d'Afrique sont tellement riches qu'il faut savoir aussi valoriser ce qui existait avant et l'adapter à un monde qui a muté.
Vous êtes dans combien de pays africains ?
Dans 15 pays, auprès de 70 organisations africaines.
Alors, c'est une organisation qui vient vous voir ou bien comment ça se passe ?
C'est souvent des organisations qui viennent nous voir. On travaille avec beaucoup d'organisations nationales, donc du coup elles sont bien identifiées. On n'en a pas énormément qui agissent à ce niveau. Et à partir de ce niveau, elles nous indiquent souvent, c'est souvent elles qui nous disent tiens, il y a des initiatives intéressantes sur le terrain, là ou là. Les paysans africains profitent du dialogue avec les paysans français, mais il ne faut pas oublier non plus que les paysans français profitent beaucoup du dialogue avec les paysans africains, donc c'est vraiment un échange.
Expliquez-nous ça.
Ça permet justement d'accueillir un collègue africain, burkinabé, malien, sénégalais, que sais-je. Ça permet aux agriculteurs ici de mieux comprendre les réalités qui sont vécues par leurs collègues.
Alors on va revenir à cette histoire d'Anacardo Bénin. Mm-hmm. Alors comment l'aventure s'est poursuivie? Parce qu'il y a une première amorce, faire l'état des lieux, organiser les producteurs locaux. Et comment l'aventure s'est poursuivie?
Aujourd'hui, on avance ce qu'on appelle le mécénat de compétences, l'échange, le dialogue autour de la profession. Les Français et les Béninois se demandent comment réfléchir à des co-investissements qui permettent aux paysans français et aux paysans béninois de vivre de leur métier.
Bah, de toute façon, le marché de l'anacarde est international.
Ah bah complètement. Et puis, le marché est international et il est aussi contrôlé par certaines filières, par certains acheteurs. Et donc, le regroupement des paysans, c'est aussi gagner de la force par rapport à ces gens qui, forcément, essayent de baisser le prix d'achat.
Je vous remercie.
Merci.
Ce qui est de la coopération au sujet de l'anacarde au Bénin, le partenariat s'est noué entre l'Union régionale des coopératives de producteurs de l'anacarde du Bénin, qui regroupe 10 unions communales et 93 coopératives villageoises dans les régions de l'Atakora et de la Donga, et la coopérative française Unicoque, spécialisée dans les fruits à coque, membre d'AFDI. Jean-Luc Règne, directeur de la coopérative Unicoque.
Oui, c'est ça, notre nom de coopérative vient de l'union de deux coopératives en fait. Une qui produisait des noisettes et une qui produisait des noix. Et Unicoque, c'est l'union des deux fruits à coque.
Alors vous êtes basé où ?
On est basé dans le sud-ouest de la France, près d'Agen, dans le Lot-et-Garonne.
Alors, nous sommes là pour parler d'économie, alors je vais vous demander votre chiffre d'affaires, le nombre d'employés et tout ça. Alors,
aujourd'hui, la coopérative, c'est une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est 336 producteurs répartis sur 71 départements français, pratiquement sur tout le territoire français. On est présent à l'international parce qu'on exporte pas mal de nos produits pratiquement dans le monde entier. On exporte la moitié à peu près de notre chiffre d'affaires actuellement. Mais on a aussi une activité de consulting avec certains pays d'Afrique et on a été sollicité pour aller faire du transfert de compétences et d'expertise sur une filière de production de cajou au Bénin.
L'anacarde.
L'anacarde, c'est ça. C'est une association, en fait, qui s'appelle Agriculture Français pour le Développement International, l'AFDI, voilà, qui nous a sollicité dans le cadre d'un programme qu'elle démarrait sur la production de noix de cajou au Bénin pour aider à la structuration de la filière. Et c'est dans ce cadre qu'on a réalisé les premières missions d'expertise.
Alors, donc vous êtes allé sur le terrain, mission d'expertise, dans un premier temps, vous avez fait l'état des lieux?
Oui, dans toute la première partie, c'est une activité qui a démarré il y a 15 ans. Première partie, ça a vraiment été de faire l'état des lieux, de ce qui était présent sur place et des pistes possibles d'amélioration. On a vu sur place un verger très jeune, un développement des plantations très actif, un dynamisme très important. Par contre, une structuration extrêmement faible de la filière qui finalement coûtait très cher aux agriculteurs locaux, puisque très divisé face à des acheteurs, eux, très concentrés. Puisqu'en fait, au Bénin, il y a 5 acheteurs qui arrivent d'Inde dans le port de Cotonou et qui font la totalité des achats. Et en face d'eux, des milliers de producteurs complètement divisés.
Ah oui, donc fragilisé de ce fait.
Il se trouve qu'en noisettes de France, on représente 98% de la production française. Donc on est l'opposé total du système qu'on a trouvé là-bas. Et donc on n'a eu de cesse que d'essayer d'apporter finalement notre expérience sur comment est-ce qu'on regroupe des gens pour qu'ils fassent mieux ensemble ce qu'ils font moins bien individuellement.
Mais le plus souvent, quand on arrive quelque part dans ce genre de situation, le premier problème c'est l'organisation, que ce soit en achat groupé ou en vente groupée.
Oui, c'est ça. C'est ce genre de questions qui ont pu être débattues avec nos homologues agriculteurs sur le Bénin. Même si on est dans un contexte complètement différent, avec des contraintes complètement différentes, avec des gens qui ont une culture qui est complètement différente, on retrouve un certain nombre de difficultés, finalement, qui sont communes à la structuration d'une organisation collective.
Si je vous entends bien, en fait, l'AFDI vous a sollicité pour la partie organisation et la suite du programme, c'est eux.
Oui, alors, Pour l'instant, nous, on est intervenu comme on a fait du consulting en mécénat. C'est finalement, on a fait ce que nous, on fait avec des gens qui viennent consultants chez nous. On fait ça, par exemple, en technique de production de noix. On fait venir des universitaires américains pour nous aider à mieux fonctionner sur la technique en production. Finalement, on a fait exactement le même type de mission. Bon, la différence, c'est que nous, on l'a fait en mécénat, alors que les Américains, pour nous, c'est pas du mécénat. Mais sinon, c'est exactement le type d'appui et de mission. Ensuite, il y a une partie de mission où les agriculteurs béninois sont venus en France plusieurs fois regarder comment la filière était, les filières sont organisées, regarder comment est-ce que les processus de décision étaient assumés, et pour essayer de construire leur propre modèle en regardant eux-mêmes, en analysant eux-mêmes comment est-ce que nous étions organisés.
Alors en 15 ans, qu'est-ce qui a changé sur le terrain au Bénin ?
En 15 ans, ce qui a changé, c'est vraiment qu'on a maintenant une structure coopérative qui marche bien, un regroupement de l'offre qui est encore partiel, mais qui est quand même, qui regroupe plusieurs milliers de tonnes d'anacardes qui sont vendues collectivement. Et ça, c'est un vrai succès du système.
Je vous remercie.
Merci.
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire multispécialiste qui fédère 20 000 collaborateurs et 14 000 agriculteurs adhérents dans 4 domaines d'activité, le lait, les légumes et fruits frais, les boissons et les viandes. À l'international, Agrial est présente en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Quand on fait métier d'approvisionner autant de monde en légumes et fruits frais sur 3 continents et 12 mois sur 12, l'activité est obligatoirement internationale. Jean-Marc Faujot est responsable de la branche légumes et fruits frais chez Agrial.
Alors sur le marché des légumes, le climat fait qu'effectivement, nous ne pouvons pas produire 12 mois sur 12 les légumes au même endroit, à quelques très rares exceptions. Pour répondre aux besoins des consommateurs, d'avoir à leur disposition des légumes tout au long de l'année, et le même légume, nous devons diversifier nos bassins de production. Et parfois, ça veut dire aller en Afrique pour trouver un climat qui nous permet de cultiver ces produits, en particulier pendant l'hiver en Europe, et ensuite trouver le relais en Europe pour boucler l'ensemble de l'année.
Donc, ce qui fait que vous êtes présent au Maroc et au Sénégal.
Exactement, nous sommes présents au Maroc depuis une vingtaine d'années et au Sénégal depuis 10 ans maintenant, près de Dakar. Et nous exportons 80-90% de la production au Sénégal vers l'Europe. Le reste est commercialisé principalement au Sénégal, localement.
Alors, quand on produit en Afrique et qu'on exporte dans le monde, et il y a une question qu'on ne peut pas ignorer, les normes.
Alors les normes, elles sont en fait fonction des marchés où nous allons commercialiser les produits. Donc aujourd'hui, les normes de production de nos produits agricoles en Afrique ou en Europe, ce sont les mêmes pour satisfaire les normes européennes qui sont en vigueur sur le marché européen.
Là, ça vous oblige à travailler avec les populations locales, les producteurs locaux ?
Oui, tout à fait, et à expliquer comment nous cultivons, comment nous obtenons de bons rendements, une bonne qualité de produits, dans les normes imposées par le marché européen, afin de ensuite favoriser l'exportation des produits vers le marché européen.
D'où l'organisation des producteurs locaux en coopérative.
Alors, il peut y avoir des coopératives pour les producteurs locaux, mais nous avons nos propres terres, des terres que nous louons avec, à long terme, et sur lesquelles nous employons du personnel local, de la population locale, qui, elle, va apprendre nos techniques, parce que nous leur transmettons le savoir-faire que nous avons acquis en Europe pendant des années pour cultiver ces produits pendant l'hiver.
Mais il n'y a pas que les populations locales, vous avez parlé des universités locales et des pouvoirs publics.
Effectivement, nous employons dans les pics saisonniers environ 7000 personnes, pour prendre l'exemple du Sénégal, parce qu'il s'agit de semer, il s'agit de désherber, il s'agit de récolter, de conditionner les produits. Et pour tout ça, il y a besoin d'avoir des équipes et des compétences très différentes. Et pour favoriser la bonne culture de nos produits, nous avons besoin d'ingénieurs agronomiques. Donc il y a évidemment des personnes qui viennent de Hollande qui ont l'habitude de le faire, qui l'ont fait pendant très longtemps, mais nous nous appuyons aussi sur des jeunes étudiants qui ont suivi des études agronomiques, que ce soit au Sénégal ou au Maroc, et à qui nous allons donner l'occasion de mettre en pratique leur enseignement dans nos champs.
Mais il faut aussi que ces populations locales puissent vivre de leur production.
Alors, pour vivre de leur production, nous avons d'abord, évidemment, nous déclarons tous les employés et nous les rémunérons dans le cadre du marché local. Et ensuite, nous commercialisons une partie de notre production sur le marché local. La majorité va être exportée, mais une partie va aussi servir à alimenter les marchés locaux.
Oui, mais quand une coopérative va travailler avec vous, au bout de quelques temps, ce n'est plus la même en termes de compétences, en termes de savoir-faire et en termes d'organisation.
Bien sûr, parce que le savoir-faire petit à petit grandit, les compétences se développent, mais nous avons aussi, avec notre développement, des terres de plus en plus grandes, nous avons aussi des légumes que nous cultivons différents, et donc les opportunités d'apprendre de nouvelles compétences, elles existent, chaque année elles se renouvellent.
Au Maroc, qu'est-ce que vous cultivez ?
Au Maroc, nous cultivons des haricots, des choux de Bruxelles, des radis, des oignons de printemps, du maïs doux, des poivrons, des haricots longs, dans des serres, donc beaucoup de légumes différents et spécifiques.
Tout à l'heure, je vous ai écouté lors de la table ronde, il y a un mot qui est venu beaucoup dans la bouche de tous les intervenants, vous avez tous parlé de village.
Oui, parce que nos exploitations se sont implantées dans des milieux ruraux, loin des villes. Nous sommes à 80 km de Dakar. Parfois, nos champs sont entre 50 à 100 km d'Agadir, pour prendre cet exemple, au cœur de petits villages. Et ces villages, historiquement, ont connu un exode de leur population, parce qu'il n'y avait pas assez d'activité pour retenir les populations sur place.
Surtout la population jeune.
Surtout la population jeune, effectivement. Et aujourd'hui, les jeunes et les femmes trouvent des activités grâce à nos cultures qui leur permettent de rester durablement dans le village et de maintenir une vie importante dans ces régions. Alors que, historiquement, c'est les populations déclinaient et les populations des villes augmentaient.
Mais c'est un changement d'optique.
C'est un changement très profond qui est tout à fait ressenti par l'administration et les élus dans les différents villages, le personnel éducatif, les professeurs qui se rendent compte que nous contribuons à poursuivre un enseignement dans le village.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Une filière qui concerne bon nombre de pays africains, notamment les pays de la bande sahélienne, les céréales. 13e groupe agroalimentaire français, 2e coopérative céréalière européenne agissant dans 25 pays et sur 4 continents, le groupe coopérative Vivechia est spécialiste de la production et de la transformation des céréales. Activité importante quand on sait que la production de céréales s'accompagne habituellement de maraîchage en début de saison sèche. Régis Méran est directeur RSE du groupe Vivechia.
Alors en fait, c'est 30 ans au Sénégal et sur des projets d'agriculture, de grandes cultures et des projets ruraux, d'accompagnement justement de Arnaud. Et au Bénin, c'est depuis 10 ans, effectivement, centré sur le maraîchage. Parce que c'est pour nous en fait des cultures vivrières, donc qui permettent aux populations de rester dans les villages et de profiter au village. Et surtout parce que globalement, on s'aperçoit que c'est en fait un type de population qui n'est pas forcément aidée par les structures du pays.
Je vais essayer de comprendre. Tout le monde met l'accent sur les cultures industrielles, en tout cas d'exploitation, qui rapportent de l'argent. Mais c'est pas ça qui fait vivre les populations dans les villages.
Ça fait vivre. Ces cultures-là, elles font évidemment vivre les populations dans les villages, puisque en fait, ça permet d'avoir des revenus. Mais en fait, ces populations de maraîchers, personne ne s'occupe de leur formation, de les faire travailler ensemble et de faire évoluer leurs compétences. Et en fait, les champs d'agriculture, enfin en tout cas l'équivalent qu'on trouve en Afrique, ils ont déjà beaucoup à s'occuper avec les grandes cultures et ils ont plus de temps pour s'occuper de ces gens-là.
Je vous ai écouté tout à l'heure, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit qu'au Bénin, vous essayez avec les coopératives locales de faire le maraîchage le plus tard possible en saison sèche.
Je donnais un exemple qui est intéressant parce que un sac de piment au mois de janvier au Bénin, ça se vend 12 000, 15 000 CFA.
C'est-à-dire à la récolte ?
C'est-à-dire à la récolte, hein, donc au piment, au moment de la récolte. Mais si jamais vous avez des conditions d'eau qui vous permettent de continuer à faire du piment deuxième, troisième, quatrième récolte, et que vous arrivez à tirer jusqu'au mois de mars-avril, là vous arrivez à vendre votre sac de piment à 45 000 CFA. Donc c'est jackpot quoi.
Donc ils vous ont dit voilà, bon, nous en saison pluvieuse, on fait la production normale de culture vivrière. Dès que la pluie s'arrête, on commence le maraîchage, oui. Mais ça ne va pas loin à cause des problèmes d'eau.
Exactement, ça peut ne pas aller loin, mais déjà, pour certains, même s'il y a des problèmes d'eau, s'ils arrivent déjà à faire des récoltes qui sont saines et donc qui produisent beaucoup, c'est déjà aussi un objectif atteint pour nous, et ça nous permet d'avoir de remplir notre mission en tout cas.
Il y a aussi la formation et aider les gens dans la gestion de la mise en marché du produit.
Ouais, alors ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on s'aperçoit que si vous faites monter en compétences les agriculteurs et qu'après donc, leur production augmente, maintenant l'objectif, c'est comment les accompagner pour mettre en fait, sur le marché de façon, j'allais dire, astucieuse. C'est-à-dire que plutôt que de mettre d'un seul coup des grandes quantités de produits parce qu'on a mal géré ses semis, l'idée, c'est d'essayer d'étager en fait, sa production pour que sur le marché, on trouve des produits régulièrement, mais pas tout d'un coup. Parce qu'autrement, on a fait effondrer les prix. Même sur un marché local, un acheteur de marché, il sait que vous êtes un peu scotché avec votre quantité, par exemple, de piment ou de choux, et il va vous tirer les prix et vous en sortez pas, quoi.
Je vais essayer de comprendre parce que, bon, c'est-à-dire que, voilà, je plante 30 hectares de piment, pourquoi pas. Je récolte les 30 hectares le même jour. Ben, l'acheteur qui arrive, il sait que je suis coincé.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai pour le piment, mais c'est aussi vrai pour le chou, pour la tomate, où d'un seul coup, tout arrive en même temps. Et donc, c'est à la fois aussi un chantier pour récolter important, mais surtout pour la commercialisation.
Mais comment je fais pour étaler ma récolte ?
Ah, bonne question. Alors ça dépend des produits. Moi, je ne suis pas agronome, mais c'est une très bonne question. Donc, on va en fait essayer, par exemple, quand le maraîcher fait un repiquage, eh ben, on lui demande sur une parcelle complète, eh ben, dans un premier temps, il repique 20 à 30% de sa récolte sur un côté. 15 jours après, il repique à côté. Et 15 jours encore après, il repique à côté. Donc ça lui permet d'avoir sur une même parcelle et un même produit un étage en fait, de la production qui lui permettra demain d'être plus performant sur le marché et de gagner encore plus d'argent.
Ben, c'est tellement astucieux que ça marche pour tout produit en fait.
Ah, ça marche pour tout produit, exactement. Ouais, tout à fait. Mais justement, il faut penser à ça. Et c'est ça qu'on essaye d'accompagner les agriculteurs et les maraîchers.
Est-ce que, du fait de votre intervention, que ce soit au Sénégal ou au Bénin, vous avez senti une amélioration de la situation de vos homologues nationaux là-bas ?
Alors, ouais, moi j'y suis retourné fin janvier, début février, avec l'accompagnement maintenant technique qu'on a mis en place, où on a des personnes qualifiées, des experts qui vont voir les maraîchers tous les 15 jours. On a senti une progression importante de la qualité des produits, de la qualité sanitaire des produits et du coup de la maturité des agriculteurs sur la maîtrise en fait de leur production. Et ça, on était vraiment enthousiastes. On a dit on continue, on les accompagne encore 2-3 ans. On a pour vocation à pas forcément les accompagner à vie, puisqu'après il faut qu'ils soient autonomes, mais après d'aller refaire cet exercice-là peut-être dans une autre région pour aider d'autres agriculteurs. Si on met en place des modèles coopératifs, on peut imaginer que les gens se regroupent, qu'une partie de la vente sert à financer le conseil technique que l'ensemble du groupement peut avoir. Donc ça, c'est vertueux comme système.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Nous étions au Salon Pro Durable, l'événement professionnel du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises qui s'est tenu au Palais des Congrès de Paris les 4 et 5 avril dernier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.